Bonsoir, Abdelmadjid Chérif, bonsoir. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une nouvelle chronique algérienne consacrée à, au système colonial et au système de propagande de la colonisation. Bien entendu, cela ne va pas sans évoquer l'ensemble des moyens mis à la disposition du système afin de propager les idées, afin d'asseoir un système qui est le système colonial avec toutes ces exactions, avec toutes ces injustices. Alors bien entendu, il y a d'un côté les sociétés dites de science qui ont été mises en place afin d'avoir une meilleure connaissance du sujet, ici en l'occurrence les indigènes, et il y avait donc aussi ce système qui petit à petit était installé, qui consistait à mettre en place des moyens de propagande, en l'occurrence la presse, et on va voir apparaître, depuis la Gazette de l'armée de 1830, on va voir apparaître des journaux qui vont venir asseoir l'ensemble de ce système. Alors Abdelmadjid Chérif, après un petit retour sur ce que nous avions évoqué la semaine dernière, nous allons donc revenir sur l'apparition, sur les premiers journaux, etc.
Bonsoir à nos auditeurs qui nous font le plaisir de veiller pour nous écouter. Nous allons continuer donc le propos que nous avions commencé la semaine dernière concernant la doctrine coloniale et les moyens qui ont été mis à sa disposition pour asseoir son influence auprès de la population coloniale. Quand je dis population coloniale, je veux parler seulement des colons. Parce que ce qu'on appelait les indigènes, d'ailleurs terme qui n'est apparu que tardivement par rapport au début de la colonisation, c'est un terme qui a été consacré à partir des années 1870-1880. Et donc dans cette population, j'insiste toujours sur l'action des sociétés savantes. Parce que ce sont ces sociétés qui ont fait un travail d'exploration systématique pour faire connaître le pays, son histoire, enfin telle qu'on a voulu la dépeindre, telle qu'on a voulu l'écrire, et surtout redorer un peu le blason de la colonisation en faisant le lien avec la colonisation romaine. Et comme chacun sait, on agit sur le psychique des individus en faisant ressortir les heures de gloire de l'histoire. Ceci contribue à consolider une personnalité. Et donc, pour ce qui est de la colonisation, ceci donne beaucoup plus de force morale aux colons. D'autant plus que ces colons, étant dans leur majorité des analphabètes, ils vont avoir à aller à l'école, ils vont commencer à apprendre, parce que l'école est d'abord destiné à cette colonisation, à cette population coloniale. Les Algériens vont bouder cette école pendant un temps. Ensuite, la propagande coloniale veut ou a voulu dépeindre les Algériens comme étant des gens qui étaient contre l'instruction, ce qui fondamentalement n'était pas vrai. Parce que là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect insuffisance des structures, et il y a naturellement l'autre aspect, celui du refus de la langue française comme langue de communication entre la population, puisqu'elle avait sa propre langue. Mais en dehors de cela, les sociétés savantes ont fait un travail essentiel pour mettre en place tous les complexes du colonisateur. Et Albert Memmi, dans son ouvrage assez intéressant, Portrait du colonisé, Portrait du colonisateur, a bien montré ces complexes et comment ils ont été introduits dans la population coloniale. Ces complexes vont être colportés par la presse. Et ainsi, ce qui était présenté par les œuvres, les travaux de ces sociétés savantes comme étant des travaux scientifiques, va avoir une coloration, une connotation péjorative dans la presse. À titre d'exemple, par exemple, quand la revue africaine étudie les mœurs des Algériens, je parle des Algériens autochtones, en faisant la différence entre les diverses populations, en disant qu'il y a diverses populations, et en donnant des caractères spécifiques à chaque groupe humain, ces caractères étant non seulement contradictoires, mais également sont fondamentalement faux, mais l'objectif était de créer une opinion définitive chez les colons pour diviser la population algérienne, autochtone. Ainsi, les différences entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, etc., et tout ce que nous connaissons de tendances régionalistes exacerbées, mentalité du douar, tout cela est né au siècle dernier dans les travaux de ces sociétés savantes. Repris par des articles de journaux et colportés à plus grande échelle, ceci devient un parti pris qui perd son caractère initialement scientifique. Cela même va contribuer à l'éclosion de ce qu'on appellera le parti colonial, qui va reprendre tous ses caractères pour essayer d'asseoir encore plus, non seulement la domination, mais la répression, c'est-à-dire anéantir toute tentative ou même toute idée de révolte. Présenter à l'Algérien, par exemple, tous les matins, sa situation d'homme amoindri, d'homme n'ayant aucun statut, cela finit par être admis en attendant des jours meilleurs. La levée de la censure dans les années 1880, par l'application de la loi française sur la presse, ne va pas changer fondamentalement les choses, mais seulement va voir arriver sur le marché une presse de colons qui se verra être le relais des doctrines et des idées développées par les sociétés savantes, reprises par des théoriciens et des politiciens qui défendent la grande colonisation. Mais cela va ouvrir un peu une brèche, parce que le caractère de la colonisation n'est pas seulement politique, il est également économique. C'est pourquoi la recherche du gain et la recherche de l'argent ne va pas être absente dans les préoccupations de la colonisation. C'est pourquoi les premiers journaux qui paraîtront auquel il est permis de paraître à partir de 1881, vont avoir ce souci. Et donc, essayer d'être un peu plus conciliant, un peu plus proche de l'indigène, C'est pour cela que l'on a parlé à un certain moment d'une presse indigène. La première presse indigène était une presse coloniale, mais prenant un peu, devenant un peu plus humaine en abordant certains problèmes sociaux auxquels fait face la société algérienne. Mais dans le fond et dans les grandes lignes, la solidarité entre colons ne va pas être démentie. Donc, grosso modo, à partir jusqu'à 1881, jusqu'à l'application de la loi sur la presse, le gouvernement général ne va tolérer que le journal officiel, le Moubacher, qui transmet les décisions du gouvernement à la population habitant en Algérie, aussi bien les indigènes que les colons. C'est pour cela que le Moubacher comportait une partie en langue arabe, d'ailleurs une langue très défectueuse, et il y avait aussi une... même pour le Moubacher, il y avait l'application d'une disposition. Tout texte ne devait paraître en arabe que s'il était accompagné de sa traduction. Bon, à partir de là, donc à partir de cette certaine ouverture, à partir de 1881, des journaux vont apparaître. Mais la grande règle, la règle d'or qui va être appliquée, c'est que les journaux qui paraîtront devront nécessairement défendre la colonisation. Il ne s'agira pas d'abord parce que la population qui lit cette presse n'est pas la population algérienne. La population algérienne, à ce moment-là, n'avait pas un niveau lui permettant de lire en langue française, et donc elle va continuer à être ignorée. Mais la tendance au profit et l'attrait du profit n'étant jamais absente dans le comportement de la colonisation des colons, il est intéressant peut-être de noter qu'un colon, vers la fin du siècle, avait compris que la population indigène devait être destinataire de la presse. Et c'est pourquoi il créa un journal en langue parlée, en langue arabe parlée. Bon, il était en français, mais il comportait une partie en langue arabe parlée. Ce fut une expérience. Le journal s'appelait An-Nasih. Et il était rédigé dans le sens de mettre en garde les Algériens contre toute action qui viserait à déstabiliser la colonisation. Son créateur pensait que la création, l'existence d'une pareille feuille pouvait amener les Algériens à la lire, non seulement à la lire, mais également à s'y intéresser et donc à payer le prix et augmenter ses profits. Cette expérience ne fut pas concluante parce que les Algériens ne lisaient pas en français, mais cette utilisation de la langue parlée leur permit de se détourner encore plus parce que la langue arabe a quand même certains aspects esthétiques qui sont recherchés par la population et qu'ils ne retrouvent pas dans cette feuille de papier. C'est pour cela que ce journal n'a pas vécu longtemps et il est tombé dans l'oubli. Plusieurs numéros, enfin quelques numéros, ont été imprimés et puis An-Nasih disparaît. Le grand souci des autorités françaises, des autorités coloniales en Algérie, pour ce qui est de la presse, était de ne permettre aucune polémique et donc de ne permettre aucune action sur un terrain politique. Que la colonisation ait les moyens de colporter ses idées passe encore, mais pour qu'il y ait un débat d'idées, pour qu'il y ait l'esprit de contradiction, et donc débattre des véritables problèmes que rencontre l'Algérie, qui, ne l'oublions pas, était encore sous régime militaire, dont la conquête ne s'était pas encore terminée jusqu'à la fin du siècle, puisque tout le sud n'était pas encore sous la domination française. La lutte populaire continuait dans le sud, mais cette tendance à vouloir communiquer avec l'autre va créer une sorte de classe qu'on appellera les indigénophiles, c'est-à-dire ceux qui, tout en étant imprégnés de la doctrine coloniale, qui a été assise quand même pendant 70 ans, qui ressentent les complexes dont nous avons parlé au début de cette émission, pensent quand même que le statut qui est réservé aux indigènes était un peu trop dur. Et donc, pour pouvoir communiquer avec cette population, il fallait lui parler le langage qu'elle voulait entendre et surtout lui parler des problèmes dont elle qu'elle rencontre et qu'elle vit quotidiennement. Ceci constitue une certaine ouverture dans le climat social en Algérie, puisque il va être mise à profit par des Algériens pour pouvoir entamer une expérience journalistique qui va avoir ses heures de gloire. Le début du siècle va connaître la création de certains journaux qu'on appellera des journaux indigènes pour la commodité du propos. Ce ne sont pas, sur le plan nationaliste, si l'on peut s'exprimer ainsi, ce ne sont pas des journaux algériens au sens nationaliste du terme, mais ce sont des feuilles qui vont permettre de regrouper un peu la population autour de certaines idées. Ces idées ne sont pas toujours nationalistes, mais elles constituent déjà une approche de la différence entre la population indigène et la population coloniale. C'est le début de la presse arabe en Algérie. Ainsi est créé le journal Al Maghrib en 1903, Al-Ihya en 1907, et ces journaux sont rédigés dans un arabe littéraire, respectant la langue et ayant un niveau appréciable, ce qui n'était pas pour déplaire à la population. Ceci va obliger le gouvernement général à changer d'attitude en ce qui concerne la presse en arabe. Le gouvernement général de l'Algérie, soucieux toujours de préserver un certain équilibre et une certaine tranquillité sociale, comprit très vite que des journaux créés par les indigénophiles pouvaient très bien s'accaparer le marché et donc être seuls présents dans la société. D'autant plus que la langue qui était utilisée était assez appréciable, et donc tous ceux qui pouvaient lire en arabe étaient des lecteurs potentiels de cette presse. C'est pourquoi le gouvernement général va encourager, en réaction à cette presse indigénophile, va encourager la création de journaux privés en langue arabe appartenant à des Algériens. C'est ainsi que naît un journal qui s'appelle Kawkab Ifriqiya, qui est né en 1907, qui est édité par Mohamed Kahoul. C'est un journal d'un très haut niveau et qui bénéficia de l'aide gouvernementale uniquement pour ne pas permettre, pour permettre, disons, une certaine diversité. Il ne s'agit pas encore de parler de liberté de la presse, ni de la liberté de parole, ni de la liberté d'opinion. Mais c'était un journal qui faisait un certain équilibre dans ses écrits. Il permettait au gouvernement général de faire paraître et de faire connaître ses décisions en langue arabe, et donc les rendre plus accessibles à la population. Il permettait aussi, ce journal permettait aussi à certaines gens de s'exprimer, d'exprimer des idées contradictoires, et d'avoir une certaine audience par le niveau que s'était donné le journal. Ce journal a eu une vie assez importante malgré la courte durée de sa vie, puisque il disparaît le 31 juillet 1914. Pratiquement à la même époque, deux autres journaux paraissent, l'un Al-Farouq, l'autre Al-Fiqar, qui était dirigé par Omar Rassim. La Première Guerre mondiale éclate et les journaux en langue arabe vont disparaître. Mais malgré cela, le gouvernement général s'était fait une opinion sur l'audience que pouvaient avoir des journaux en langue arabe et sur les orientations futures que pourraient avoir des journaux rédigé en langue arabe et destiné uniquement à la population indigène. Et c'est pour cela que la presse algérienne va connaître déjà, juste avant la Première Guerre mondiale, les premières persécutions, et Omar Rassim sera emprisonné.
Alors, Majid Chéri, donc, pour ce soir, c'est terminé, et, étant donné le temps qui nous est imparti. Nous donnons donc rendez-vous pour la semaine prochaine, mercredi prochain, toujours à la même heure, juste après le journal de 22h30. Et nous allons continuer notre petite promenade dans cette période à la fois trouble et difficile du début du siècle avec l'apparition de la presse à la fois arabophone et francophone. Abdelmajid Chiri, bonsoir.